SBS Radio.
Les grands titres de ce dimanche, le Premier ministre australien et le chef de l'opposition fédérale prennent une pause pour Pâques, pour la campagne électorale, pas de nouvelles annonces, la bataille reprend demain. 23e samedi du mouvement des Gilets jaunes en France et il y a eu des heurts à Paris, des manifestations un peu partout en Europe concernant le changement climatique. En Australie, donc, une pause pour cette campagne des élections fédérales. À cause de Pâques, le chef de l'opposition fédérale, Bill Shorten, est à Brisbane ce dimanche, où il est allé à l'église. Le Premier ministre Scott Morrison est à Sydney, où il est allé également à l'église. Hier, il a promis 100 millions de dollars pour les services de santé en région rurale et 65 millions de dollars pour l'hôpital Westmead de Sydney pour un nouveau centre de fibrose kystique.
Cystic fibrosis is a condition that we used to only treat children for because children didn't survive it ultimately and become young adults and adults. But today, cystic fibrosis sufferers are living longer. They're going into their 30s, into their 40s, and even longer than that. And the treatment of adults with cystic fibrosis is a different challenge to those when you're treating them as a child.
Le chef de l'opposition fédérale, Bill Shorten, met en garde les travailleurs faiblement rémunérés qui sont sur le point de perdre des centaines de dollars. En cette période de Pâques, le leader du parti travailliste reproche au Premier ministre d'avoir réduit le salaire des employés du commerce de détail, de la restauration rapide et de la pharmacie. Brendan O'Connor, porte-parole du Labour pour l'emploi, a déclaré que le parti travailliste renverserait la décision du Fair Work Commission de réduire les pénalités s'il était élu.
They're already doing it tough, as I say, because it's the lowest wage growth on record. But imagine this. Imagine you're at a time of the lowest wage growth on record and you have a government voting 8 times to cut pay from hard-working, modestly paid retail, hospitality, pharmacy workers. It's just really unacceptable. It's fundamentally unfair. And only Labour will restore those wages, restore those penalty rates.
Brendan O'Connor de l'opposition fédérale. Le Parti travailliste promet à tous les anciens combattants les mêmes indemnités pour les frais funéraires, quel que soit le conflit dans lequel ils ont servi. La promesse d'une valeur de 118 millions de dollars est annoncée à la veille de Anzac Day le 25 avril prochain. Certains soldats qui ont combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant la guerre de Corée et celle du Vietnam, n'ont actuellement droit qu'à 2000 dollars pour les frais d'obsèques. Les Verts demandent au leader du Parti travailliste de soutenir une commission royale d'enquête sur la gestion du Murray-Darling Basin si le Labour remporte les élections fédérales du 18 mai prochain. La sénatrice des Verts, Sarah Hanson-Young, a poursuivi son attaque contre la gestion du plan du bassin par la coalition et notamment par un achat d'eau de la valeur de 80 millions de dollars en 2017. Le Premier ministre Scott Morrison a déclaré qu'il n'était pas nécessaire de mener une enquête, mais la sénatrice Hanson-Young a déclaré sur Sky News que ce n'était que le dernier d'une longue série de scandales.
We've got to clean up this chunkiness. We've had a million dead fish on the Murray-Darling. We've had less water returned to the river than taxpayers have funded. And at the end of the system, of course, here in South Australia, we just want a flowing, living river. That's what we want, and that's not what $13 billion of taxpayers' money so far has delivered.
Sarah Hanson-Young sur Sky News. Des manifestations ont eu lieu partout en Europe concernant le changement climatique. À Paris, des activistes ont bloqué l'entrée du siège d'une banque qui investit dans les combustibles fossiles. Au Royaume-Uni, les manifestants se sont rendus sur certains sites clés de Londres, notamment à Oxford Circus, Waterloo Bridge et Westminster pour la 5e journée consécutive. Et à Rome, la militante suédoise pour le climat, Greta Thunberg, a parlé des moyens pour sauver la planète.
Humanity is standing at a crossroads. We must now decide which path to take. How do we want the future living conditions for all species to be like? We are here today because we have decided which path we want to take. And now we are waiting for the others to follow our example.
Greta Thunberg, la militante suédoise pour le climat. 23e samedi du mouvement des Gilets jaunes en France hier. Il y a eu des heurts à Paris, une centaine de personnes arrêtées. Reportage Pauline Glaise pour Radio France Internationale.
Sortie du cortège officiel pour fuir les lacrymogènes, Delphine continue à se faire entendre. Et plus que les fuites sur ce qu'aurait dû annoncer Emmanuel Macron, c'est son absence de prise de parole qui l'a fait réagir.
Pour l'instant, monsieur le président a réussi à faire une belle déclaration sur Notre-Dame et on attend la fin de son fameux grand dégât, débat. On attend.
Des pancartes pour le climat et un RIC 2.0 superposé sur le dos tel une dame orchestre, car ne se satisferait pas d'un référendum d'initiative citoyenne au niveau local auquel Emmanuel Macron serait favorable.
C'est un RIC de fantaisie, certes il faut le faire, mais c'est un RIC au niveau national dont on parle. No comment.
Et le référendum d'initiative partagée, qui serait facile?
C'est une blague, franchement, le référendum d'initiative partagée, c'est un faux RIC, c'est ce qu'on pourrait appeler le RIC 0.0.
Autre piste avancée, une réindexation des pensions sur l'inflation pour les retraités touchant moins de 2000 euros, pas suffisant pour cette gilet jaune.
C'est l'indexation du coût de la vie sur toutes les retraites.
Au-delà des revendications habituelles, ce samedi, beaucoup s'indignaient de la mobilisation de fonds pour la reconstruction de Notre-Dame plutôt que pour aider les personnes en grande précarité.
Pauline Glaise pour RFI. En Libye, les forces loyales au gouvernement ont lancé une contre-offensive face à l'avancée des troupes du maréchal Haftar, alors que la Maison-Blanche révèle l'existence d'un entretien téléphonique entre Donald Trump et le maréchal. Le représentant spécial de l'ONU pour la Libye, Hassan Salamé, se dit inquiet. En Afghanistan, une attaque meurtrière a visé un complexe du ministère de la Communication hier à Kaboul. 7 personnes ont été tuées alors que les pourparlers de paix sont en cours entre les talibans et les Américains. Deuxième tour de l'élection présidentielle en Ukraine ce dimanche entre le sortant Petro Poroshenko et l'humoriste Volodymyr Zelensky. Reportage Anastasia Becchio, RFI.
Dans son haut-parleur perché sur sa camionnette, un guide touristique propose des tours à Medjugorje, l'ancienne résidence du président Yanukovych, devenue le symbole de la corruption de l'ancien régime. 5 ans après la révolution, avec la hausse des prix et la guerre à l'Est, la corruption reste l'un des principaux soucis des Ukrainiens. C'est ce qui pousse Tetiana et son fiancé, tous deux étudiants, à chercher à terminer leur cursus à l'étranger.
C'est difficile en Ukraine de briser le plafond de verre de la corruption et de se faire une place à l'université, au travail. C'est pourquoi nous avons décidé de partir.
Après la révolution de Maïdan, plusieurs institutions de lutte contre la corruption ont été créées, mais leur champ d'action est limité par le manque de volonté politique, explique Daria Kalinyuk, directrice de l'ONG Centre de lutte contre la corruption.
Les organes de lutte contre la corruption sont constamment sous pression et subissent des attaques. Le système judiciaire défend des intérêts politiques. Nous voyons bien dans cette campagne électorale que les gens sont lassés de cette élite politique. Ils estiment qu'elle doit être sanctionnée politiquement pour ne pas avoir tenu ses promesses.
Petro Poroshenko a demandé pardon de n'avoir pas mené à bien la lutte contre la corruption. Une déclaration qui, même si elle a l'air sincère, selon Daria Kalinyuk, vient sans doute un peu tard.
Anastasia Becchio pour RFI. En Inde, la campagne électorale, dominée ces jours-ci par la nomination par le BJP, le parti au pouvoir, d'une candidate controversée, Pragya Singh Thakur. Précision d'Antoine Guinard, RFI.
Emand Karkare est mort car je lui ai jeté un sort lorsque j'étais en prison. Cette phrase de Pragya Singh Thakur envers l'ancien chef de la police antiterroriste a scandalisé l'ensemble de la classe politique et des médias, hormis peut-être le BJP. Le parti nationaliste hindou est dans l'embarras après cette insulte envers le policier, tué dans l'assaut meurtrier par un commando terroriste à Bombay le 26 novembre 2008. Pragya Thakur n'a pas tardé à rétracter ses propos face à la tempête médiatique. Le BJP a tenté de son côté de limiter les dégâts, affirmant que cette phrase malencontreuse s'expliquait, je cite, « par des années de torture physique et mentale qu'elle avait subies en prison ». Emand Karkare était en effet en charge de l'enquête qui a mené à l'arrestation et l'incarcération pendant 9 ans de Pragya Thakur. Elle est accusée d'être impliquée dans des attentats à la bombe dans la localité de Malegaon dans l'ouest de l'Inde en 2008. Libéré sous caution en 2017 pour des raisons de santé, cet extrémiste hindou a été nommé comme candidate par le BJP dans la circonscription de Bhopal pour les législatives la semaine dernière. Plusieurs personnes, dont le père d'une des victimes de l'attentat de Malegaon, ont fait appel devant la justice pour l'interdire de se présenter.
Antoine Guinard pour RFI. Selon le quotidien britannique The Times, la CIA affirme que la compagnie Huawei serait financée par la sécurité chinoise à des fins d'espionnage. Les Américains auraient mis au courant les services de renseignement britanniques, canadiens, australiens et néo-zélandais. Explication Claire Fage, RFI.
Selon le quotidien britannique The Times, la CIA affirme que Huawei reçoit des fonds de l'armée populaire de Chine, de la Commission de la Sécurité Nationale et des services de renseignement chinois. L'agence centrale de renseignement américain en aurait avisé les services de renseignement britanniques, canadiens, australiens et néo-zélandais, partenaires au sein du même réseau Five Eyes. Le géant chinois des télécoms répond que ce sont des allégations non fondées, qui ne s'appuient sur aucune preuve et qui émanent de sources anonymes. Mais ces affirmations illustrent davantage comment les États-Unis cherchent à convaincre leurs alliés que Huawei est un outil d'espionnage pour les autorités chinoises. Des accusations de plus en plus appuyées sur fond de brouille commerciale entre Washington et Pékin. Huawei est déjà interdit sur le territoire américain et ses cadres sont poursuivis, accusés d'avoir violé les sanctions contre l'Iran. Mais Huawei espère toujours conquérir le marché de la 5G en Europe, là où le mois prochain à Prague, les États-Unis espèrent de leur côté pousser leurs alliés à prendre des mesures pour empêcher la domination de Huawei sur la 5G, un nouveau réseau Internet qui élargira l'usage des produits connectés, ce qui pourrait le rendre plus vulnérable.
Claire Fage pour RFI. Coup d'œil météo pour ce dimanche en Australie. Perth maximale de 18 degrés, Adélaïde 32, Melbourne 30, Hobart 23, Canberra 26, Sydney 25, Brisbane 26, Cairns 30, Darwin 34 et à Alice Springs maximale de 26 degrés. Un rappel des grands titres de ce dimanche. Le Premier ministre australien et le chef de l'opposition fédérale prennent une pause pour Pâques, pour la campagne électorale. Pas de nouvelles annonces. La bataille reprend demain, 23e samedi du mouvement des Gilets jaunes en France. Et il y a eu des heurts à Paris. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.